Ce qui est ancien, c'est le sentiment de déclin. Ça fait plus de 10 ans que l'on fait cette enquête et il y a 10 ans, on était exactement au même niveau, 80% des Français qui ont le sentiment que notre pays décline. Ce qui est nouveau, c'est l'intensité de ce sentiment, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup plus qu'avant les Français qui pensent que ce déclin est irréversible. Par rapport à l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017, c'est plus 14 points. On avait en gros un Français sur 5. Aujourd'hui, c'est un Français sur 3. Et la deuxième chose qui est nouvelle, et ça, pas par rapport à il y a 6 ans, mais vous l'avez dit, par rapport à l'année dernière ou l'année précédente, c'est le sentiment d'être une France, d'appartenir à une France satisfaite, apaisée, une France mécontente, une France en colère. Alors, la France satisfaite, c'est un tout petit bout, c'était déjà un tout petit bout, moins de 10%. Mais la manière dont ça se distribue entre le mécontentement et la colère, ça c'est un grand changement. Là aussi, en gros, il y a 2 ans, vous aviez 2 fois plus de Français qui étaient mécontents qu'en colère. Aujourd'hui, on est quasiment au même niveau.
Alors sur ce...
L'orgueil français, pour moi, c'est la phrase de De Gaulle qui commence ses mémoires ou presque, qui dit que la France est une nation qui doit, pour survivre, viser haut et se tenir droit. Et dans ce programme-là, je pense que beaucoup de Français se retrouvent, quel que soit d'où qu'ils viennent, etc. C'est une nation assez orgueilleuse que la France, qui pense qu'elle a une place à jouer, une place à tenir. Et c'est vrai que ces dernières décennies, il y a des éléments du déclassement qui sont pour le coup intangibles. Là, moi, je ne parlerai pas de sentiment de déclin. Alors, par exemple, je pense que notamment au cœur du malheur français, il y a le déclassement des services publics. Et quand je parle des services publics, je parle notamment de l'école, la nation des professeurs. Quand on voit qu'aujourd'hui, la France est avant-dernière de l'OCDE pour les résultats en maths, qu'elle est très mauvaise aussi sur le français, enfin, sur la langue native, et que en plus de plus, elle est une des pires nations pour l'ascenseur social à l'école, bah là, vous dites c'est quand même problématique. Pendant le Covid, il y a eu aussi le sentiment très fort du déclassement de notre autre joyau national qui était l'hôpital. Tout d'un coup, on a découvert que alors qu'on pensait qu'on avait un joyau, qu'on était les meilleurs du monde, on n'était plus les meilleurs du monde. Et tout ça, on pourrait vraiment continuer d'aligner les exemples. Mais tout ça, je pense, en plus... on va dire pessimisé, ça n'existe pas, mais par le fait que on est le pays qui a le plus grand taux de dépenses publiques par rapport à son PIB. Donc on se dit, mais où sont les marges de manœuvre? C'est quand même difficile de se dire, on peut pas dépenser sans cesse plus, et où est notre grandeur?
C'est vrai, enfin, vous savez, là on comparait avec les pays de l'OCDE, mais si on compare la France avec des pays du Sud, c'est impressionnant, parce que, enfin du Sud, enfin, en tout cas différents pays ont moins grand développement économique. Par exemple, si on compare avec le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, eh bien, le taux de confiance en l'avenir est bien plus faible bien en France
que là-bas,
que dans ces pays. Alors on se dit, il y a quand même un problème. Donc il y a quand même un facteur culturel français. D'où ça vient,
c'est le spleen, c'est presque littéraire.
Oui, mais je pense qu'on a aussi cultivé, alors d'où ça vient, je ne saurais, mais on a cultivé une sorte de alors, je ne sais pas si c'est d'orgueil, de satisfaction. On dit souvent que les Français sont des râleurs. Ça, c'est leur regard extérieur. Mais nous, je crois qu'on a acquis une satisfaction d'être râleur, une sorte de jouissance d'être râleur. Et je pense que là, il y a peut-être aussi à voir. Alors, effectivement, je pense aussi que les médias jouent un rôle, mais on va peut-être en parler après.
Gilles Fenet, plus pessimiste en France. Depuis fort longtemps. Quand on pose la question du déclin, en fait, c'est déclin par rapport à quoi?
Par rapport à qui et quoi?
Alors, c'est ça. Est-ce que c'est par rapport aux autres ou est-ce que c'est par rapport à avant? Et on a beaucoup un déclin nostalgie. La question, on la pose aussi dans l'enquête, est-ce que c'était mieux avant? Vous avez 70% des Français qui répondent c'était mieux avant. Est-ce que... Il serait content de vivre à l'époque où on avait, au début des années 70, je n'en suis pas sûr. Mais il y a cette dimension-là et dans laquelle il y a à la fois une dimension individuelle. C'est le chiffre que vous citiez tout à l'heure, Elisabeth Kinnock. On disait bonheur privé, malheur public. Et bien là, même pour le bonheur privé, moins de la moitié des Français qui se disent satisfaits.
Ça, c'est nouveau.
Ça, c'est nouveau. Au collectif, c'est un peu ce que disait Anne Rosin-Cher tout à l'heure. On est un pays... Le pays de la Révolution française qui portait une ambition universelle, du mythe gaulliste de la grandeur, de la promesse macronienne du renouveau. Et c'est le décalage, sans doute, entre ce que nous espérons être et ce que nous sommes qui explique aussi ce sentiment de déclin qui a aussi, je crois qu'Anne a raison de le souligner, des causes objectives.
Mais je pense qu'il faut faire attention à un mot qu'on entend énormément.
Lequel ?
Résilience. Mmh. On l'emploie tout le temps. On est une nation résiliente. À chaque fois qu'on a un énorme traumatisme national, on dit mais c'est pas grave parce qu'on est résilient. Après le Covid, on est résilient. Après les attentats, on est résilient. Après les émeutes, on est résilient. Mais en fait, non. C'est-à-dire que je pense que la résilience est magnifique à l'échelle individuelle, la capacité du cerveau à se remettre des traumatismes. Mais à l'échelle politique, ces choses ont une inscription qui va nourrir en effet un pessimisme, un sentiment que le film vous échappe. Et juste pour revenir sur la question, est-ce que c'est que la France ou pas ? C'est vrai, nous sommes un peu plus pessimistes que les autres. Après, on vit en parallèle ce que vivent beaucoup des pays occidentaux. C'est-à-dire, tout d'un coup, on paye une espèce de contre-coup de la mondialisation que nous n'avions pas vu arriver avec aussi ses conséquences négatives pour les classes populaires et moyennes des pays développés. Et partout, ça a donné le Trumpisme, ça a donné le Brexit, ça a donné Mélanie. Partout, les gens sont plus en colère et plus pessimistes.
Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance et les gens trouvent de plus en plus ce qu'ils cherchent dans les réseaux sociaux avec les algorithmes. Et si je cherche des informations négatives, ben les réseaux sociaux, enfin le système va me les donner. Vous voulez, il y a une phrase classique des journalistes qui dit « on n'est pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure ». Bon, très bien. Mais je pense que les médias devraient marcher sur deux pieds, les journalistes. C'est-à-dire le pied d'alerter sur les problèmes, et ça, globalement, ils le font bien, mais aussi informer sur les solutions qui existent déjà ou qui peuvent exister demain. Et là-dessus, je pense qu'ils sont très défaillants. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut un équilibre entre problèmes et solutions. Moi, je m'intéresse beaucoup aux solutions. Mais qui dit solution, c'est pas être naïf. Qui dit solution veut dire conscience des problèmes. C'est pas évacuer les problèmes. C'est ça que je voudrais souligner. Je prends un exemple, par exemple, quelques exemples, au niveau environnemental. Moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup les marées noires, il y avait l'ozone, il y avait les pluies acides, il y avait toutes sortes de... Ils sont plus là. Mais on n'a pas dit que des choses se sont améliorées. Vous voyez, si on ne parle que des choses qui vont mal, on ne voit pas les choses qui s'améliorent et on n'a pas les outils pour les multiplier.
On a eu tout ce débat sur la fin du mois, la fin du monde, la fin du mois.
Bon. L'inflation, etc.
Bien sûr. Donc, il y a, je trouve, une lucidité des Français sur l'urgence et la gravité de la situation. On le voit dans la hiérarchie des préoccupations, parce qu'en dépit de tout ça, la deuxième préoccupation des Français... Deuxième. Il y a le pouvoir d'achat, évidemment, qui écrase les autres.
Et en deux, le dérèglement climatique.
En deux, le dérèglement climatique. Arrive en dernier, c'est la première fois, le chômage. Le chômage a écrasé toutes les préoccupations pendant des années. Les Français, à tort ou à raison, mais considèrent que ce problème-là est réglé. Donc, environnement, préoccupation qui reste très élevée. Et le sentiment, lucidité aussi, je crois, que ce problème ne peut pas être réglé seulement par le progrès technique et les innovations, mais qu'il va falloir des modifications en profondeur de nos modes de consommation et de nos modes de production. Donc ça, disons, côté positif.
C'est plutôt acquis. Bon,
une sorte de fatigue environnementale, déjà, peut-être, mais en tout cas, de fatigue. Le chiffre que vous citiez, 68% des Français qui disent... On a déjà beaucoup fait d'efforts maintenant. C'est un peu aux autres, l'État, les entreprises, d'en faire davantage. Je crois qu'il y a une bonne illustration de ce que vous dites.
Alors, l'individualisme, c'est sûr, a entraîné énormément de...
C'est un invariant, vous voulez dire.
Oui, c'est un invariant qui explique beaucoup de choses de la société aujourd'hui, notamment un repli, je dirais, de la cité, c'est-à-dire l'abstention, le fait de ne plus vouloir s'informer. Donc, en effet, il y a peut-être d'en avoir marre d'entendre que des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi le côté « ça ne me regarde plus, je me referme sur mon cocon ». Mais je ne suis pas sûre que ça nourrisse le déclinisme. Ouais. En revanche, sur l'écologie, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce qui est clivant, pour moi, c'est l'écologie politique. C'est-à-dire que quand on regarde, en effet, les scores des Verts, par exemple, au municipal, c'est vraiment les grandes métropoles où, finalement, il est plus facile d'amortir les promesses de changement de vie, notamment sur tout ce qui est transport, c'est évident. Mais en revanche, je trouve que sur la prise de conscience écologique générale, mais là, pour le coup, n'importe quel citoyen peut le constater, pour ce coup-là, on n'a pas besoin d'Ipsos, la prise de conscience a énormément évolué en quelques années. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Avant, il y a 15 ans, quand on parlait réchauffement, vous avez quand même les trois quarts des gens qui levaient les yeux, qui disaient que tout ça, on n'était pas très sûr et tout ça. Maintenant, je dirais qu'au moins, le problème s'est déplacé plutôt sur comment on résout les choses, et là, encore une fois, on retombe dans les mêmes divisions, à savoir ceux qui ont déjà l'impression d'avoir été, entre guillemets, les lésés des prochaines décennies vont être là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour le protectionnisme, parce qu'on parle de désindustrialisation. Combien on est tous payés à payer plus cher dans notre consommation pour financer ces valeurs-là?
Alors non, mais c'est une réalité. Et je pense que les rapports du GIEC sont bien là pour nous montrer que la situation, elle n'est pas bonne, quoi. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, dernier rapport du GIEC, par exemple, toute une partie est consacrée aux solutions. Vous voyez ? Donc, informer clairement sur les problèmes, c'est important. Informer clairement sur les solutions, encore une fois, c'est aussi important. Et je voudrais aussi souligner quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a eu des études qui montrent que lorsque on présente à des personnes des images de banquises avec pratiquement plus de glace, enfin des ours faméliques ou des déserts, et on demande aux gens qu'est-ce que ça provoque chez eux. Ah, ils disent c'est très bien, parce que ça va augmenter la prise de conscience pour les autres. Mm-hmm. Pour les autres. Et pour moi, moi, je me sens impuissant. Et voilà, à peu près, les réponses, elles sont de ces temps-là. C'est bien pour les autres, mais moi, ça ne me permet pas d'agir. Et ce qu'il faut, c'est trouver des moyens d'alerter les gens en leur donnant les moyens d'agir. Oui.
D'accord. Alors, ce qui a changé, c'est d'abord ces éléments de contexte que l'on évoquait, le déclinisme, le ressentiment, la défiance, la colère. Ça, ce sont des ingrédients. Et ce qui a changé, ce qui change année après année, mais je trouve que là, on a atteint un point supplémentaire, c'est l'image du Front National, du Rassemblement National, à la fois son évolution dans le temps et son image comparée aux autres partis. Comment empêcher d'avancer quelqu'un qui ne fait aucun pas? Et c'est ce qui est frappant, c'est qu'en réalité, le Rassemblement National parle assez peu depuis un an,
et on range des dividendes.
Il progresse quand même de manière importante. Il progresse à la fois parce que la défiance, voire la répulsion qu'il pouvait susciter, recule, et surtout, et je trouve que c'est ça l'élément nouveau et sans doute l'élément le plus inquiétant, parce que sa force d'attraction progresse.
C'est pas écrit. Rien n'est écrit là à trois ans et quelques. Pour reprendre la question que vous posiez, qu'est-ce qui a changé? La question, c'est même peut-être qu'est-ce qui n'a pas changé. C'est-à-dire que finalement, on peut toujours analyser les raisons de la progression du Rassemblement National par la dédiabolisation dans les médias. Ça, on adore faire. C'est un peu auto-centré par plein de choses, etc. Mais en vérité, les invariants dont on parlait tout à l'heure, c'est les choses qui gonflent les voix depuis des décennies. Et c'est le prix du mètre carré, le logement, qui est en train de faire un séparatisme total sur le territoire français entre ceux qui sont, encore une fois, exclus de la photo et ceux qui sont au cœur des métropoles battantes où se concentrent les richesses, la culture, les médias, ceux dont on parle, en fait, etc. Ça ne change pas. Le prix du mètre carré, le sentiment de déclassement des services publics, l'industrie, parce que tant que vous ne refaites pas de la réindustrialisation verte, je précise, vous ne remettrez pas de dynamisme et de richesse dans ce qu'on appelle la France périphérique. Donc tout ça, tout ça, on va nous dire c'est en cours. Oui. Les Français répondent pas assez vite. Et puis surtout, il y a ce sentiment, mais on y reviendra peut-être, qu'on n'a plus les manettes. C'est la victoire. C'est pour ça que la victoire du Brexit, c'est take back control. On reprend les manettes. C'est cette idée que finalement, les hommes politiques se suivent au pouvoir, nous promettent des choses qu'ils ne peuvent pas appliquer. On est en crise de démocratie représentative à cause de ça.